Oui, bonjour. Albert m'a demandé de parler un peu des Saintes Écritures et de faire un peu ce que nous faisons dans notre cours de vérité fondamentale. Peut-être ça donnera envie à certains de participer et peut-être d'autres à ne jamais participer, je ne sais pas, on verra. J'aimerais lire un verset en Luc chapitre 1, le premier verset. Et on va juste parler du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons combien de livres? Quelqu'un peut nous dire? J'entends plusieurs chiffres là. 27, voilà. Et dans l'Ancien Testament, il y a 39, il faut faire un total de... Voilà, 66 livres, bravo. Et on peut se demander, est-ce qu'il y a un Nouveau Testament? Et ça mérite... Ça s'est éteint, non? Ça arrive? Ouais. Beaucoup de réflexions, mais la Hébreux 1 nous dit que dans l'ancien temps, Dieu nous a parlé par les prophètes, et maintenant il nous parle par son Fils. Donc ça suggère qu'il y aura une autre parole de Dieu. Et effectivement, 2 Corinthiens, ça sonne un peu, David. Tu peux baisser juste un peu.
Okay, on va voir si on peut.
Voir si c'est mieux ou non. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, ne cherchez pas, mais il parle en fait de la lecture, ceux qui font la lecture de l'Ancien Testament, comme l'Ancienne Alliance. Et puis lui, il dit qu'il est ministre de la Nouvelle Alliance. Donc là, il y a la suggestion qu'il y aura aussi des écrits de la Nouvelle Alliance. Hein, c'est pas mieux qu'avant. Bon, on va essayer une deuxième fois, et puis si c'est pas bon, tant pis. Hein. Mais en Luc chapitre 1, le premier verset, il dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. » Il dit « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. » Donc, il dit au début, plusieurs ayant entrepris. C'est-à-dire, avant Luc, il y a plusieurs qui ont entrepris d'écrire des évangiles. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs, même peut-être beaucoup, d'écrits sur la vie de Jésus. Et Luc va aussi lui-même écrire un autre. Alors pourquoi nous avons 4 évangiles et pas 6, 7, 23 ou 25? C'est la question que nous voulons nous poser ce matin. C'est le verset dont j'ai fait référence tout à l'heure. Et c'est ça qui a vraiment forcé nos ancêtres dans la foi à réfléchir à cette question de qu'est-ce qui comprend le Nouveau Testament? Qu'est-ce qui fait partie de la parole de Dieu? Il y a la multiplicité de ces livres, comme nous venons de voir. Et puis, il y avait des gens qui disaient, « Ah, certains livres, il ne faut pas lire. » Il y avait un certain Marcion qui n'aimait pas Paul, et donc il voulait couper les livres de Paul. Et donc, il fallait en parler. Et puis, il y avait aussi des livres qui étaient disputés, comme Hébreux. Certains disaient que c'était bon, d'autres disaient que non, c'était peut-être pas la parole de Dieu. Et donc, ils sont confrontés à cette situation de pouvoir identifier quelle est la parole de Dieu. Alors, on ne peut pas parler maintenant, mais la Bible dit que la parole de Dieu est plus précieuse que quoi? L'or. Elle a déjà une certaine valeur. Si elle est inspirée, elle est déjà de l'or. Donc, il suffit de pouvoir prendre quelqu'un qui puisse reconnaître, savoir évaluer ce qu'est l'or. Et donc la quête d'identifier ce qu'est le Nouveau Testament, c'est la quête de pouvoir identifier ce que Jésus a vraiment, ou l'Esprit Saint a vraiment inspiré, et ce qui n'était pas inspiré. Le chef-d'œuvre de l'Esprit Saint, c'est de nous donner la parole de Dieu. Alors il cherchait à identifier ce qu'est la parole de Dieu. Et c'est assez simple, c'est peut-être même plus simple qu'on le croirait. La première règle, c'était de savoir si le document était conforme à la règle de foi, c'est-à-dire à tout ce que disait déjà l'Ancien Testament. Parce qu'il y avait des choses qui étaient écrites qui étaient bien évidemment différentes de la vérité enseignée par Jésus et par les apôtres. Je vous donne juste un exemple. J'aime bien regarder le visage des femmes qui sont présentes, mais ça vient de l'évangile de Thomas. Et ça nous dit que Simon-Pierre leur dit que Marie nous quitte car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus dit, « Voici que moi je l'attirerai pour la rendre mâle, de façon à ce qu'elle aussi devienne un esprit vivant semblable à vous, mâle, car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. » Vous voyez, c'est pas difficile de lire certains écrits, de savoir, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce n'est pas conforme à ce que nous savons déjà de la Bible. Et en lisant donc certains écrits, on sentait vraiment l'esprit qui était à l'œuvre. Et puis la reconnaissance générale de l'origine divine du livre par toutes les églises. Quand d'autres églises reconnaissaient que ça c'est la parole de Dieu, bien sûr, ça avait un poids sur les autres. Par exemple, Ignace qui vient juste 20 ans après l'apôtre Jean. Il parle de cette manière dans ses écrits. « Je ne vous donne pas des ordres comme Pierre et Paul. Ils étaient des apôtres et moi, un condamné. » Donc tout de suite, il y a cette reconnaissance que mes écrits d'Ignace ne sont pas à la même hauteur que la Bible, que ce qu'ont écrit les apôtres. Il faut se rappeler que la tâche de l'Église primitive ne consistait pas à attribuer une autorité divine ou même ecclésiaste à des écrits purement humains, mais plutôt à reconnaître l'origine divine d'écrits possédant déjà cette qualité, et parce que le critère ultime de canonicité est l'origine divine et non l'approbation humaine ou ecclésiale. C'est-à-dire, c'est la Bible qui s'est imposée sur l'Église. Ce n'est pas l'Église qui a choisi la Bible. Et il y en a 27 livres qui ont été bien évidemment inspirés de la part de Dieu. Alors, dans cette persuasion qu'avaient les chrétiens, il y a vraiment deux facteurs. Et là, je vous donne juste des idées hein, pour voir. Il faut mettre les ceintures, on va aller très vite pour arriver à la fin. Mais il y a la persuasion intérieure du Saint-Esprit. Jésus a dit que mes brebis, quoi ? Entendent ma voix. Et donc, pour un chrétien, quand il lit la Bible, il entend la voix de Christ. Le Saint-Esprit lui parle parce qu'il y a quelque chose de divin dans ce qui se passe. Et puis, il y a aussi les données historiques à notre disposition. C'est-à-dire, c'est vraiment des données, c'est des vérités historiques que nous avons quand nous lisons notre Nouveau Testament. Alors, je vais juste vous parler donc du rôle des apôtres. Quel est le rôle des apôtres dans le Nouveau Testament ? L'apostolicité de ces écrits. Ben, nos documents qui composent notre Nouveau Testament sont tous associés d'une manière ou d'une autre aux apôtres. Ils ne sont pas venus très très tard dans l'histoire. Là, vous avez une liste, vous n'avez pas besoin de tout lire, mais vous avez une liste des 27 livres du Nouveau Testament. Et le premier, qui est probablement Jacques, dans les années 40, et Hébreux juste avant l'année 70 où il y a la destruction du temple. Nous avons presque déjà tous les documents du Nouveau Testament dans cet laps de 25 années. Hein, vous avez la plupart des apôtres. Et puis les seuls qui viennent après sont des livres de l'apôtre qui est mort en dernier, l'apôtre Jean. Mais lui vraiment, il est tout seul et il vient à la fin. Donc, quand vous prenez votre Nouveau Testament, vous prenez un document qui date du premier siècle après Jésus-Christ. Ce sont des documents fiable et historique que nous lisons. Et tous ces livres, comme j'ai dit, ont une relation avec les apôtres. Vous pouvez peut-être m'aider avec cela, petit exercice. Quand vous pensez à l'apôtre Matthieu, il est associé à l'évangile de Matthieu. Là, l'apôtre Jean a plusieurs livres en fait. Hein? L'évangile de Jean, 1, 2, 3 Jean, Apocalypse de Jean. Et puis l'apôtre Paul est associé à combien de livres? Au moins 13. Hein? Il y a les 13 épîtres de Paul. Et donc eux, ils ont tous le nom des destinataires, aux Corinthiens, 2 Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, etc. Et puis à Pierre plutôt, 1 et 2 Pierre, et puis Jacques, qui était considéré comme un apôtre, il était un pilier, il avait ce rôle en acte 15, vous pouvez lire, d'apôtre dans l'Église. Il était aussi demi-frère du Christ, l'épître de Jacques. Et puis il nous reste quelques-uns qui sont peut-être un peu plus difficiles. Luc et Actes sont écrits par la même personne, Luc. On pourrait dire Luc 1 et Luc 2. Et lui, il est associé à quel apôtre? Surtout à l'apôtre Paul, parce qu'il a voyagé beaucoup avec lui. Hein, il se connaissait très très bien. Et puis l'évangile de Marc, qui n'est pas un apôtre, mais il était intimement associé à quel apôtre? Vous savez? L'apôtre Pierre. Hein, et Pierre, quand il dit « J'aurai soin après mon départ que vous ayez un récit de ces choses », il parle vraisemblablement de l'évangile de Marc. Et puis Jude est associé à son frère, qui est Jacques. Et puis nous avons le dernier, Hébreu. Et Hébreu, c'est vraiment la seule des épîtres où il n'y a pas de nom associé. Alors certains sont même très dogmatiques pour dire que c'est Paul, mais en fait nous ne savons pas qui c'est. Nous savons qu'elle vient de ce premier siècle. Mais quelqu'un a bien dit, je crois, que l'acceptation de l'épître aux Hébreux comme canonique, c'est-à-dire comme faisant partie du Nouveau Testament, n'est pas entièrement dû à la conviction que Paul en serait l'auteur. Ce seraient plutôt les qualités intrinsèques du livre qui ont finalement dû convaincre les premiers lecteurs. Ainsi d'ailleurs que ceux qui la lisent aujourd'hui de son origine divine. Quel que puisse être son auteur humain, la gloire majestueuse du Christ brille si vivement dans les pages de l'Épître aux Hébreux qu'aucun croyant qui la lit sérieusement ne saurait mettre en doute sa place dans le canon. Donc, l'évangile d'Hébreux nous est donné pour nous montrer que, en fait, ce qui compte, ce n'est pas que ça vient de Paul ou de Pierre ou d'un autre apôtre, mais que ça vient de Dieu. C'est avant tout la parole de Dieu, même si nous sommes ignorants par rapport à l'auteur humain. Mais pourquoi les apôtres ont eu ce rôle si important dans la rédaction du Nouveau Testament? Et la première chose, c'est leur lien à Jésus-Christ. Leur lien à Jésus-Christ. Alors, je vais vous relire, vous pouvez chercher si vous voulez, mais Hébreux chapitre 1. Mais la plupart de vous connaissez ce verset où la Bible nous dit qu'après avoir autrefois, il y a plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. L'Épître nous dit que Dieu maintenant parle à l'Église. Il nous a parlé par son Fils. Et si vous regardez, vous voyez que la révélation que Dieu donne est ici divisée en combien de périodes de temps ? Il y a autrefois, il parlait ainsi, et maintenant, il parle à travers son Fils. Donc, vraiment, il y a combien de périodes? Il y a deux périodes. Les autrefois et ces derniers temps. Et si nous sommes dans les derniers temps, il n'y a pas de troisième période de temps. Nous sommes dans les derniers temps. Selon la Bible, c'est les derniers temps. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus que Dieu doit faire ici sur terre avant la fin. Avant la fin, avant qu'il vienne chercher son Église. Et maintenant, dans le dernier temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Les gens disent, moi, j'aime écouter Dieu. Si vous voulez écouter Dieu, il vous a parlé où? Par qui? Par le Fils. Alors, qui est qualifié pour nous donner sous forme écrite cette révélation finale? Si Christ est la révélation finale, qui est qualifié pour nous la transmettre? Et si vous pouvez, regardez 1 Jean chapitre 1. Vous aurez la réponse ici. De qui est qualifié pour nous donner cette révélation finale? Jésus-Christ est la révélation finale. Mais qui peut nous parler donc de cette révélation finale? 1 Jean chapitre 1, regardez comment il commence. C'est l'apôtre Jean. Ce qui était dès le commencement, il parle de Jésus ici. Ce que nous, il parle des prophètes, hein, et des apôtres plutôt. Ce que nous avons entendu, c'est-à-dire nous avons entendu Christ. Ce que nous avons vu de nos yeux, c'est-à-dire nous avons vu de nos yeux Christ. Ce que nous avons contemplé et même que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie, c'est Jésus la vie ici, il a été manifesté et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Alors, on arrête là. Vous voyez ce qu'il dit? Nous, on a une communion avec le Père et le Fils. Nous l'avons vu, nous l'avons touché. Nous avons vu cette dernière révélation que Dieu a donnée à l'homme. Et nous, maintenant, nous vous communiquons maintenant par écrit ces choses afin que vous entrez en communion avec nous et donc avec Dieu. Donc, le chemin, la porte par laquelle nous allons entrer en communion avec Dieu est à travers la révélation, les écrits que nous donnent les apôtres. Ils nous racontent ces choses pour que nous puissions être en communion avec eux et avec Dieu. La Bible dit que Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et nous pourrions dire que nul ne vient à Christ que par les écrits des apôtres. On ne peut pas aller voir des visions de Christ. Non, il faut passer par les écrits. Il n'y a pas d'autre moyen à connaître Christ, la révélation divine de Dieu. Ce ne sont que les apôtres qui sont qualifiés pour nous donner cette révélation qui vient par le Fils. Alors, quelqu'un dit ceci en parlant de cette phrase en hébreu, « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Il dit, c'est précisément parce que la révélation est liée à ce Jésus qui est apparu dans l'histoire réelle, qu'un achèvement implicite est intégré dans l'affirmation. C'est quoi l'affirmation? L'affirmation, c'est que Dieu nous a parlé par le Fils. Et donc, ça implique, il dit, un achèvement, qu'il ne va pas continuer à parler. Il ne pouvait pas exister un flux incessant de révélations à propos de Jésus si ces révélations se détachaient de ce Jésus qui se présentait dans l'histoire réelle et qui a été confessé par les premiers témoins oculaires et les apôtres. Si Jésus-Christ est la révélation finale de Dieu, Jésus est né à Bethléem. Donc pour connaître cette révélation finale, il faut connaître le personnage. C'est là la révélation, c'est en Christ, dans sa vie, dans son œuvre. Quelqu'un d'autre a dit que le contraste entre la manière dont Dieu a parlé autrefois par l'intermédiaire des prophètes et la manière dont il l'a fait plus récemment en ces jours qui sont les derniers, laisse penser que ce que Dieu nous a dit par son Fils est le point culminant de l'histoire de la rédemption et sa dernière et principale révélation à l'humanité. Tout indique que la révélation de Dieu en Christ représente le couronnement de la révélation et qu'il ne faut pas s'attendre à aucune autre révélation. Ça, c'est la révélation que Dieu nous donne. C'est par son Fils, à travers ses hommes, qui l'ont vu, qui l'ont touché, qui l'ont entendu parler. Ça, c'est le point culminant et vous l'avez dans vos mains ou dans vos portables. Et donc, si les évangiles sont la présentation de Christ. Je ne sais pas ce qui se passe là, c'est pas grave. Si les évangiles sont la présentation de l'œuvre de Jésus-Christ, quand nous lisons les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils nous présentent Jésus-Christ. Mais il nous faut quelque chose de plus. En Actes, nous avons la proclamation de Jésus-Christ et de son œuvre. Nous avons l'Église qui amène ça partout dans le monde. Mais il nous faut quelque chose de plus. Et donc nous avons les épîtres qui sont en fait l'explication et l'application et l'interprétation divine de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est en lisant les épîtres qu'ils vont nous expliquer, mais quand Jésus est mort, voici ce qui se passait. Il faut lire les épîtres pour bien comprendre les évangiles. Et puis, il nous reste encore un dernier livre, l'Apocalypse, qui nous donne la consommation, la fin prévue de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est donc la présentation, la proclamation, l'explication, et puis la consommation de Jésus-Christ. Mais tout le Nouveau Testament est centré sur ce seul personnage, Jésus-Christ. Il est la révélation finale de Dieu. Et en lisant la Bible, le Nouveau Testament, vous avez la révélation de celui qui est lui-même l'image parfaite de son Père. Donc quand nous lisons les Saintes Écritures, nous parlons de l'Ancien et de Nouveau Testament. Et nous avons, comme nous dit le catéchisme, c'est la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Ça veut dire que quand on l'ouvre, c'est Dieu qui nous parle. Il nous parle. Elle a une valeur suprême. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle est plus précieuse que l'or. Mais pour le croyant, elle devient aussi plus douce que le miel. Et puisque c'est l'Esprit qui l'a inspiré et l'Esprit qui nous habite, ils se rencontrent dans la lecture de la parole. Et nous sommes nourris. Et Jésus lui-même a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra comment ? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible est dogmatique sur ce point que c'est la parole de Dieu. Ils étaient convaincus de ce point. Alors, je vais juste sauter un peu, mais vous donner quelques versets où nous voyons l'autorité investie dans les apôtres du Nouveau Testament. Regardez ce verset en 2 Pierre 3:2. Il dit « Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, Jérémie, Ésaïe, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur, que quoi ? Vos apôtres vous ont transmis. » Vous voyez, au même plan, Jérémie, Ésaïe, etc. Et de l'autre côté, Paul, Pierre, Jacques et Jean. Ils ont une autorité, et depuis le tout début, l'Église reconnaissait cette autorité. Donc Paul va écrire, par exemple, il va écrire aux Galates, il va dire, « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts, à tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, par exemple. » Vous voyez l'autorité qu'ils avaient dans leur écrit. Paul va dire aux Corinthiens, il va dire, chapitre 14, il a dit, « Si quelqu'un se croit apôtre, qu'il reconnaît que ce que je vous écris est un quoi ? Commandement du Seigneur ! » Parfois on se dit, « Mais est-ce qu'il savait qu'ils étaient inspirés de Dieu en écrivant ?» Oui, Paul dit, « Ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » Il le dit après, c'est au chapitre 14, après qu'il dit au verset 7, « Je vous donne mon opinion. » Oui, je vous donne mon opinion, mais ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. En 2 Timothée, en écrivant à Timothée, Paul va dire, l'Écriture dit, et il va citer Deutéronome, et puis il va citer l'Évangile de Luc. Donc il met au même plan Deutéronome et l'Évangile de Luc. Et il va dire, des deux, ils sont l'Écriture. Et puis plus tard, il va dire à Timothée, ça vient après, il va dire, toute Écriture est inspirée de Dieu. C'est après avoir dit que Luc faisait partie des Écritures. Donc il pense à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Et vous savez peut-être où Pierre va parler de Paul. Il va dire qu'il y a des choses difficiles parfois à comprendre et les gens tordent le sens comme ils le font avec d'autres Écritures. Hein? Il met ce que Paul écrit, Pierre parle, et il met ce que Paul écrit au même niveau que les autres Écritures. Donc depuis le début, mes amis, depuis le jour J, depuis le premier jour, ces écrits que nous lisons étaient reçus, acceptés comme la parole de Dieu. Bien sûr, il y avait certains qui doutaient, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais ce n'est pas comme si quelqu'un a fouillé, trouvé des écrits quelque part et a essayé de faire de cela la parole de Dieu. Non, elle est la parole de Dieu. Et nous avons aujourd'hui, je termine avec ça, des manuscrits qui datent, par exemple, de Jean, qui datent à grosso modo 80 ans après la mort de Jean. Des manuscrits où ils ont daté, c'est-à-dire très, très, très vieux. Et je disais ça l'autre jour à Sarcelles, mais il est intéressant que parfois, souvent, c'est nos amis musulmans disent que la Bible a été quoi ? Voilà, falsifiée, vous savez, on entend souvent, falsifiée. Mais il y a des passages dans le Coran où Mohamed il parle du fait que, en fait, les écrits sont crédibles et fiables. Et donc, une fois, j'ai même eu quelqu'un qui m'a dit, bon, c'est depuis que la Bible a été falsifiée. Mais nous pouvons leur dire, en fait, nous avons des manuscrits aujourd'hui dans nos mains, et même ici à la Bibliothèque nationale de Paris, qui sont plus vieux que la naissance de Mohamed. Et nous pouvons les comparer avec ce que nous avons de nos jours et voir que non, ils n'ont pas été falsifiés. C'est la même Bible que nous lisons aujourd'hui. L'argument historique est que ces écrits sont fiables. Même les athées le reconnaissent. Les écrits de Paul, ce sont des écrits fiables. Ils ne vont peut-être pas y croire, mais personne ne dit d'une façon sérieuse que le Nouveau Testament a été falsifié. On disait ça avant de l'Ancien Testament. Jusqu'ils y ont trouvé ces manuscrits de la Mer Morte qui dataient de 200 ans avant Jésus-Christ, et ils ont découvert que, ah non, en fait, eux non plus n'ont pas été falsifiés. Notre foi est basée sur des faits historiques, sur des documents historiques qui sont à la fois inspirés de Dieu et qui ont été depuis le début acceptés par l'Église comme la parole de Dieu. Et si vous êtes en Christ, vous avez ce témoignage intérieur qui vous dit « Oui, oui, c'est la parole de Dieu ». Mais tout concourt, l'argument historique avec le témoignage de l'Esprit, que nous avons dans nos mains une sainte parole, un saint livre, des saintes Écritures. À nous donc de la lire. Voilà.
Je m'arrête là.